RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le maître Yodu, Johan Durand, le recordman du monde, l'homme en vacances.
Oui, exactement, plutôt. Là, c'est plutôt l'homme en vacances, ouais.
Alors, on me dit donc, Valérie D'Amido, c'est vrai que ça te va bien, en ce moment, Valérie D'Amido.
En ce moment, je peins, ouais. Mais ouais. D'ailleurs, j'en ai plein les doigts. Je sais pas comment je vais faire partir ça parce que j'en ai plus sur les doigts que sur le que sur le mur.
On n'est pas à la Jodie Bonin, quoi. C'est pas du graphisme,
non,
c'est pas de
là,
l'art.
C'est, là, c'est je sens que.
Bah, une grosse œuvre.
C'est à peu près. C'est pas tout à fait la même fin, mais au début, ça part pareil, un peu dans tous les sens. Tu vois, je superpose des couches l'une sur l'autre, mais ça va pas donner pareil, ouais.
Bah, tu nous enverras le rendu et tu le publieras dans le club RMC Running. Ça peut être marrant.
Non,
il n'assume pas.
C'est là où, quand tu te lances dans des trucs, tu te dis finalement, en fait, t'es pas doué pour
ah
tout.
Ah bah oui, c'est ça. Voilà, on peut pas tout, on peut pas savoir tout faire.
On peut pas
ça,
être bon sûr. Partout.
Vous nous rejoignez sur les réseaux, Instagram, le compte RMC Running, le club RMC Running sur Strava. Vous publiez vos sorties dans le club. Nous, on se régale de voir un peu ce que vous faites. Vos différentes préparations avec l'été qui approche. Parce que oui, on n'est pas encore en été à Paris, vu le temps qu'il fait.
Non.
Ça arrive doucement. Mais sûrement. Grande thématique à l'honneur aujourd'hui dans RMC Running. Comment perdre du poids grâce à la pratique de la course à pied? On va vous faire découvrir un personnage extraordinaire, Sylvain Dugue. Passer de Fat Man à Iron Man, c'est lui-même qui le dit. C'est l'intitulé d'un documentaire qui est fantastique, qu'on vous invite à retrouver sur YouTube. Il sera avec nous dans quelques secondes. Il va nous raconter son histoire, nous expliquer comment le sport l'a aidé à se reconstruire. Et puis, autre témoignage fort, Johan, un membre du record du monde RMC Garmin sera là aussi.
Ah,
on l'a
yes.
rencontré le week-end du 8 et 9 juin. Il nous a aidé à aller chercher ce record du monde, Rémi Mourgue. Là aussi, on vous racontera son histoire parce qu'elle est liée à la thématique du jour. La séance, d'ailleurs, ce sera les clés de l'entraînement pour perdre du poids grâce à la course. On va s'appuyer sur l'expérience de Rémi et de Sylvain. Et puis, on aura un bon plan dossard pour terminer. 3 dossards à gagner pour la IOTA, tu sais, c'est cette course de swimrun organisée mi-juillet à Vichy. Elle est portée par Xefi, on va vous faire gagner des dossards, je vous rappellerai les formats de cette course. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on prend son destin en main aujourd'hui.
Je m'appelle Sylvain Dugue, j'ai construit mes 5 dernières années autour d'une revanche de vie, terminer un Ironman.
J'ai réussi à me reconstruire après avoir vécu des violences familiales, du harcèlement scolaire et de l'obésité.
À l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids suite à des violences familiales.
Donc je suis retourné chez ma mère. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture.
S'en suivra des années de harcèlement interminables. Et puis à mes 17 ans, j'ai décidé de reprendre ma vie en main autour d'une phrase. Celui qu'on a longtemps appelé Fat Man deviendra Iron Man.
C'était principalement des moqueries sur mon physique qui avaient pour but de m'isoler encore plus et de me faire perdre confiance.
Le matin, je me strappais les seins pour essayer de cacher en fait, le fait que j'avais des seins, quoi, que j'étais en obésité.
En progressant, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais capable de réussir des choses.
Déjà la première fois où j'ai réussi à courir 10 km, là, je me suis dit, ok, je suis capable, je suis pas un bon à rien comme on essaye de me dire tous les jours.
Quelques années plus tard, j'ai multiplié les distances et j'ai même terminé un Ironman après avoir répondu à mes harceleurs.
Et dans ces moments que je me dis que je vais changer.
Il est là avec nous en direct en studio, Sylvain Dugue. Salut Sylvain.
Salut, merci de me recevoir.
Bah, merci à toi. Magnifique histoire qu'on va raconter. Et en plus, vous connaissez. Johan, tu as rencontré Sylvain sur un des marathons de Paris cette année, je crois d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. On faisait des conférences auprès d'enfants et moi je connaissais pas Sylvain et j'ai été très touché par son histoire, son parcours de vie et c'est vrai que c'était un truc dingue. Donc quand je l'ai rencontré derrière, j'ai dit lui, il faut qu'on le fasse dans le podcast parce que c'est une vraie histoire de vie de dingue quoi la façon. Et puis surtout il a cette volonté de faire bouger les choses et c'est pour ça qu'il intervenait justement auprès des élèves avec moi le jour de la conférence. Et voilà, donc je me suis dit, il faut lui donner la parole parce que c'est quelque chose d'important, tu vois, dans nos jours, de faire bouger les choses et surtout sur ce sentiment-là, on parle souvent que la société, on fait moins de sport, machin, truc, on est souvent derrière les écrans, nos jeunes sont souvent en situation de, pas d'obésité, mais il faut bouger.
Oui.
Et donc c'est bien de laisser la parole à Sylvain pour parler de tout ça. Ouais.
C'est vrai que les campagnes de sensibilisation, peu importe la cause, c'est toujours très bien, Sylvain. Mais lorsque les élèves ont la preuve par l'exemple, c'est-à-dire qu'ils ont face à eux quelqu'un qui est passé par là, tu pourras nous le dire d'ailleurs, mais tu as déjà reçu des témoignages d'enfants qui se reconnaissaient dans ton histoire personnelle.
Bah, j'ai eu énormément de témoignages. Moi déjà, comme je témoigne de violences familiales, bah, y en a qui osent sortir du silence.
Ouais.
Il y en a aussi qui me parlent du fait qu'ils sont en obésité, qu'ils sont en perte de confiance totale depuis plusieurs années, qu'ils se font harceler, des choses comme ça. Et forcément, d'avoir quelqu'un qui a vécu tout ça, je pense qu'on a besoin d'un modèle à un certain âge, comme j'ai pu en avoir à un moment donné. Mmh. On a tous besoin d'un modèle pour grandir. Donc si je peux incarner ce rôle-là au travers de mon histoire, c'est avec plaisir. Quoi,
comment ça se passe concrètement? Ce sont des enfants qui viennent te voir à la fin du cours ou qui t'écrivent a posteriori? C'est quoi le cheminement dans ces cas-là?
Ouais, alors en primaire, ça se fait directement en cours. Moi, j'organise un atelier qui s'appelle le cahier des mots, MAUX, où j'incite les jeunes à libérer la parole, donc soit par l'écrit, soit par le dessin, parce que par la parole, bah, c'est difficile.
Ouais, bien sûr.
Donc là, directement dans les classes, j'ai souvent des témoignages assez forts. Et ça me permet après de faire le lien, transmettre à l'infirmière, on va dire, aux enseignants pour qu'ils puissent prendre le relais plus tard. Et par contre, au collège-lycée, là, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux parce que à la fin de l'intervention, bah, ils n'osent pas forcément lever la main et dire je me fais harceler, ou si ça se trouve, le harceleur, il est juste à côté.
Non, mais en revanche, pour les jeunes, c'est intéressant le lien que tu crées entre les différents acteurs de l'école, entre l'élève et l'équipe encadrante, quoi.
Ouais, bah, exactement. De toute façon, moi, je leur dis, hein, je peux pas garder ça pour moi quand ils me témoignent de choses assez dures. On est là pour les aider. Et puis, bah, des fois, j'ai des scénarios assez fous. J'ai des harceleurs carrément qui lèvent la main, qui témoignent, qui disent bah, moi, en fait, je me rends compte que je me moque d'une personne et j'ai envie d'arrêter, quoi.
Ah oui, ça, c'est fou. Là, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ouais, t'as raison.
Ça m'est arrivé deux fois, hein, mais...
Ouais.
Mais quand ça t'arrive, tu te dis ok,
ah, bah, même prise moi, de conscience comme ça.
Même moi, je savais pas quoi répondre. Quoi.
Bon, on raconte ton histoire dans un instant. Juste, tu sais, on démarre toujours nos podcasts par cette question, puis elle est très forte pour toi. C'est pourquoi tu cours, tout simplement.
Je pense que je cours bah, parce que ça m'a sauvé la vie un peu, quoi. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et dès que je me sens mal, bah, je me sens mieux quand je vais courir et que je mets les baskets.
Voilà. C'est simple, hein, Johan, finalement.
Bim. Bah oui. Non, mais la course à pied a cette valeur-là de te sentir bien dans ton corps. Tu vois, quand tu sors d'une séance de course à pied ou une séance de sport en général, mais la course à pied particulièrement, bah t'es bien, tu vois, t'as libéré des endorphines, t'as créé un truc, t'as transpiré, t'as un peu éliminé tous les excès que t'as pu faire, ou même si t'en fais pas, mais tu vois, c'est, t'as ce sentiment de bien-être dans ton corps, et ton corps te dit merci presque.
Ouais, mais c'est vrai, hein, tout le monde le ressent, qu'on soit un excellent coureur comme toi, ou des coureurs lambda. Ouais, c'est vrai que à la fin on a toujours cette satisfaction personnelle de dire
quand tu t'assois là dans le canapé et peu importe ce que t'as fait, mais ouais, t'as la satisfaction du devoir accompli. Ouais,
bon, on raconte l'histoire de Sylvain dans un instant, juste après son CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
T'as quel âge, Sylvain, aujourd'hui?
J'ai 23 ans.
Et tu cours depuis que t'as quel âge, alors?
Depuis mes 16 ans, j'ai commencé.
Ok. Tu cours combien de fois par semaine?
Ça dépend, je dirais 4 aller en moyenne par semaine.
Parce que tu fais à côté de ça de la natation, du vélo.
La natation, du vélo, j'essaye de relever d'autres défis, je fais même du ski. Voilà, j'essaye de me diversifier au maximum en ce moment.
Voilà, donc pluridisciplinaire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 4 sorties de course à pied. Ça représente combien de kilomètres en moyenne de course?
Je cours pas énormément, je dirais que je suis aux alentours de 40 km par semaine. Après, j'essaye d'être régulier, on va dire, le plus possible, mais des fois, bah, comme tout le monde, j'ai des coups de mou et puis ça se passe un peu moins bien sur certaines semaines.
Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier?
Je dirais sur Ironman, quand j'ai fait 11h44. C'est pas un record, mais mon premier 10 km que j'ai fait en 1h01, j'en suis très fier. Ouais. Après, j'ai abaissé mon chrono à 38 minutes. Et sur semi, j'ai 1h26, il me semble.
Ah ouais, des gros chronos là, Johan, quand même.
Non, c'est des bons chronos, ouais, c'est vraiment des beaux chronos. Hein. Tu sens que c'est quelqu'un, bah, il a basculé au-delà de, il a basculé dans la logique aussi de performance, tu vois, presque. Ouais. C'est plus simplement courir pour perdre du poids. À un moment donné, quand tu progresses, c'est ça l'avantage de la course à pied, c'est que tu progresses très vite et d'un seul coup, et là il est dans une logique d'entraînement pour aussi performer un petit peu,
Sur l'Ironman de ton record, tu fais un marathon en moins de 4 heures.
Ouais, 3h55, j'étais vraiment très content
d'arriver
à courir en moins de 4 heures, je me suis accroché à ça, quoi.
Ouais, voilà.
C'est fort, hein. Ouais. Après le vélo et la natation, quoi.
Ah, nous, on n'irait pas.
Je ne sors pas de l'eau déjà.
Ouais, déjà.
Pour faire le marathon, je suis pas sorti de l'eau encore.
Quelle est la dernière course que tu as disputée?
La dernière course que j'ai fait, c'est le week-end dernier. On a fait un 24 heures en duo avec mon meilleur pote running. Donc, on a fait 210 km à deux. Voilà, c'était une belle épreuve.
Ah bah, on vous a battu facilement, nous.
C'est à la mode, les 24 heures, hein, décidément.
C'est à la mode.
Bah, écoute, bravo, hein. Oh, quel défi.
Ah bah, merci.
Comment vous avez tourné, alors?
On a essayé de doubler les tours. On avait des tours de 7 km pour essayer de se reposer au maximum, surtout pendant la nuit, faire des petits cycles.
Ah ouais.
Mais c'était quand même assez compliqué. Et puis quand le jour il s'est levé, là, c'était de la survie. Hein. Il n'y a plus de stratégie.
La prochaine fois, tu me le dis, on vous envoie Geoffrey Charpie, hein, pour vous crier relance.
Voilà, ça, ce sera. Il s'est motivé les trois.
Voilà. Et la prochaine course, c'est quoi?
Prochaine course, alors en running, ça va être 100 km de Mio. Et après, j'ai un petit défi au milieu de l'été qui est de faire le GR20 avec des amis. Et j'emmène un pote sédentaire avec moi.
Donc,
il a 3 mois pour se préparer et relever ce défi.
Magnifique. Les mecs peuvent pas faire dans la simplicité, Johan.
Non,
c'est fou.
Jamais.
Ça peut pas être le 10 km de Miramas. Non, pas du tout.
C'est
100 km. C'est que des défis extrêmes. Sylvain Dugue en direct avec nous. Je sais que vous allez adorer ce profil qu'on reçoit cette semaine dans RMC Running. Allons-y sur ton histoire personnelle, ton enfance à Montpellier, cette relation chaotique avec ton papa notamment, c'est ce qui t'a beaucoup fait souffrir. On va pas rentrer dans le pathos entre guillemets et tout raconter, mais l'histoire part de là, Sylvain. C'est une très mauvaise relation avec ton père qui se comporte pas bien et ça déclenche tous les problèmes en fait.
Ouais, c'est ça, il y a eu énormément de violence sur ma belle-mère pendant des années. Déjà moi, mes parents étaient séparés, ma mère a jamais refait sa vie, mon père a refait sa vie. Ouais. Et vraiment quand j'allais chez mon père, j'étais témoin de beaucoup de violence. Il tapait ma belle-mère, il a forcé à se faire prostituer. J'étais témoin de toutes ces choses-là. Voilà, quand j'étais en primaire, moi je terminais les cours, je montais à l'arrière d'un camion et je dormais sur un matelas la nuit, quoi. Pendant que mon père faisait le tour des aires d'autoroute avec elle. Donc ça a généré pas mal de traumatismes. J'ai vu toutes ces violences à la maison de mes 6 à mes 9 ans environ. Et puis après, surtout quand elle a réussi à s'enfuir, c'est vraiment fort ce qu'elle a réussi à faire parce que c'est difficile. Toutes ces violences, elles sont venues sur moi parce que cette fois-ci, elle a porté plainte, il allait avoir des procès. Mon père, il a décidé de m'utiliser pour essayer de gagner ce procès-là. Donc cette fois, c'est moi qui étais battu, j'étais séquestré dans la maison, je devais apprendre des fausses versions de l'histoire, faire croire que ma belle-mère me faisait des accouchements.
Il essayait de te forcer à témoigner contre elle, quoi.
Ouais, j'étais complètement manipulé, quoi. Ouais. Il essayait de me manipuler, il essayait de rendre fou ma mère, ma belle-mère, enfin tout le monde, et essayait de se faire passer lui pour la victime et en m'utilisant. Pendant quelques années.
Quand j'ai entendu ton histoire, quand tu racontais tout ça, moi, une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce que tu as renoué contact avec ta belle-mère ?
Avec ma belle-mère, ouais. J'ai des très bons contacts. D'ailleurs, même quand elle était battue, moi, je me souviens, je lui disais, mais va-t'en, quoi. Pars, mon père, il va te tuer un jour, quoi. Et en fait, elle pouvait pas parce que ces gens-là, ils manipulent, ils mettent sous emprise totalement la personne.
C'est dur de juger. Ouais.
Donc, elle pouvait pas partir, mais on avait des très bons liens. Elle m'a toujours protégé et je me dis même que si elle est restée aussi longtemps et qu'elle n'est pas partie avant, c'était peut-être une manière de ne pas me laisser seul avec mon père.
Protéger aussi.
Donc elle me protégeait moi, elle protégeait ma demi-sœur qu'elle a eue avec mon père. Donc aujourd'hui, on a des très bons liens. Forcément, quand on vit quelque chose d'aussi dur, ça crée des liens, quoi.
Donc entre 6 et 9 ans, cette période très très difficile, le surpoids intervient à quel âge ?
Ça arrive,
se déclenche à ce moment-là ou un peu plus tard ?
Je dirais que ça commence vers les 10 ans, juste avant que j'arrête de voir mon père. En fait, entre mes 9 et 11 ans, il y a les jugements. Donc il y a toute cette phase où il me manipule et à partir de 10 ans, je vais commencer à prendre du surpoids. Je vais commencer à prendre du poids et c'est d'une manière très malsaine. C'est que mon père, pour essayer de rendre folle ma mère, quand il m'a en vacances pendant un mois, il me fait manger le plus possible. Et en fait, je reviens avec 10 kilos de plus déjà.
C'est-à-dire fast-food
Tous les soirs, c'était pizza, pâtes, non-stop. Et du coup, je suis revenu des vacances avec 10 kilos en plus et après, je me sentais mal, je me sentais isolé. Et c'est là que j'ai commencé à me réfugier constamment dans la nourriture, quoi.
Ouais. T'as eu le trouble ensuite au collège, quoi. Ça a démarré comme ça.
Ouais, au début du collège. Après, j'ai arrêté de voir mon père à 11 ans, donc juste avant l'entrée au collège. Et forcément, je me sentais assez seul, isolé. Je n'osais pas aller vers les autres. Du coup, j'avais pas forcément d'amis. Quand je rentrais, je me mettais face aux jeux vidéo. Et juste, je mangeais, quoi. C'était le seul plaisir que j'avais à ce moment-là dans ma vie.
Aucun lien, aucune relation avec le sport à ce moment-là
quand t'es petit ? J'ai quand même toujours fait beaucoup de sport et c'est ça qui était dur pour moi, c'est qu'on me disait t'es entre guillemets gros, va faire du sport, alors que moi j'étais un des plus sportifs, quoi. Ouais. J'étais inscrit au rugby, j'ai fait du badminton, de la natation, tous les mercredis, les week-ends, je prenais mon vélo, j'essayais d'aller jusqu'à la plage faire 20 km, je bougeais beaucoup, mais la balance énergétique, j'étais tellement mal que je mangeais 10 fois plus que ce que je dépensais, quoi.
C'est une histoire touchante, hein, Johan. Le début de l'histoire est très difficile déjà.
Ah, ça, c'est dur à entendre. Et franchement, moi, c'est pour ça que je lui tire mon chapeau. C'est d'avoir trouvé cet exutoire via le sport et via la course à pied. C'est dingue parce que voilà, ça doit être tellement difficile à vivre que moi, je dis un grand bravo. Ouais.
C'est incomparable, mais ensuite, tu subis du harcèlement scolaire. Ça fait souffrir énormément, surtout dans ces années-là, les années de l'adolescence. C'était aussi dur que ce que tu as vécu plus jeune ? Parce que quand on est plus jeune, la situation était encore plus dramatique, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui se passe ? Ça, c'est la question. Ouais. Est-ce que le harcèlement scolaire, il t'a fait autant de mal que ce qui t'était arrivé auparavant ?
Avant, c'est vrai, comme tu dis, je savais que c'était pas normal, mais je me rendais pas compte de la gravité, quoi. Je l'ai vu en grandissant. Ouais. Et le harcèlement scolaire, ça a fait mal, mais honnêtement, ce qui m'a fait le plus mal, je pense, ça a été pendant, de mes 10 à mes 18 ans, me voir... je me suis vu échouer tous les jours de ma vie, quoi. Tous les jours de ma vie, je me regardais dans le miroir, je me suis détesté, je me suis insulté. Ouais. On l'a vu en intro, on a entendu, je me strappais les seins parce que je me voyais gros. Ouais. J'avais une image de moi qui était mais horrible, plus aucune confiance. Et je pense que c'est ça qui m'a fait encore plus de mal que les moqueries des autres.
Ouais.
Parce que les moqueries des autres, au bout d'un moment, tu comprends que bah, eux, ils sont pas bien et que bah, c'est leur avis au final.
Il y a l'effet de groupe, c'est toujours la même chose.
Ouais, voilà.
Scolaire,
Et moi, j'avais compris par rapport à tout ce que j'avais vécu qu'ils étaient pas bien aussi pour faire ça, quoi. Mmh. Et que... Mais par contre, moi, me décevoir, ça vraiment, ça m'a fait mal parce que tous les matins, je me levais en me disant, bah ok, je vais surmonter toutes ces difficultés. Et j'y arrivais pas, quoi, c'était trop dur. Mmh. J'essayais de manger bien le matin, manger bien le midi, aller faire un peu de sport et tout, et en fait, j'y arrivais pas.
T'avais du mal à entrevoir la porte qui pouvait t'aider à passer à autre chose, peut-être.
Ouais, c'était... Bah, je la voyais, je la visualisais, et d'un côté, j'étais quand même assez lucide, je me disais, là, Sylvain, tu vas t'en sortir, mais t'es trop jeune, quoi, t'as pas toutes les clés en main, ouais. Il va falloir du temps. En fait, c'est assez étrange, mais j'étais conscient que j'étais pas encore au fond du trou, que j'allais devoir sombrer encore pas mal d'années avant de pouvoir rebondir.
T'as eu des idées noires, parce que c'est des moments où là aussi on se pose pas mal de questions. Est-ce que la question du suicide, tu l'as eu en tête un moment ou non, t'es pas allé jusqu'à ce point-là?
Bah, si je suis là, je suis pas passé à l'acte, mais j'ai eu l'idée un jour.
Quand même. Ouais.
Ça m'a évoqué l'esprit plusieurs fois, quoi, parce qu'à un moment donné, on se dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Et j'avais écrit une lettre une fois que j'ai déchiré après. J'avais commencé à écrire, je sais plus ce que j'avais mis, mais c'était pour dire au revoir, quoi.
Ah ouais.
Mais je suis pas passé à l'acte. Bah, c'était au collège quand j'ai fait ça. Donc ça devait être vers mes 14 ans.
Ok.
Mais j'ai trouvé une sorte de résilience par le sport. J'étais toujours fan de sport, même si je pratiquais pas. Enfin, je pratiquais, mais pas de manière.
Oui, t'étais pas inscrit dans un club. Tu faisais pas un sport régulièrement toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine.
Ouais, c'est ça. Mais j'étais passionné. Tu vois, je regardais tout le temps à la télé toutes les épreuves. Je regardais tous les JO,
les Jeux Olympiques,
les trucs comme ça. Et en fait, je trouvais des modèles. Et je sais pas pourquoi. Moi, j'adorais les outsiders, quoi. Les mecs qu'on méprisait. On parle de films genre Rasta Rocket.
Ouais,
tu vois, les
sûr.
Mecs comme ça où tout le monde se moque d'eux. Ils se fixent un défi. Et en fait, toutes ces histoires-là, quand je voyais des mecs qu'on méprisait et tout et qui arrivaient à gagner. Ben, je me disais, moi j'ai envie d'être comme eux.
Ouais.
Et je pense que je me suis accroché à ça pendant toute l'adolescence.
Il y a un élément déclencheur à 15 ans, c'est-à-dire que tu montes sur la balance, tu vois 99 kg 800, tu te dis là je suis vraiment pas loin de la barre des 100 à 15 ans, et tu te dis non mais là c'est plus possible.
Ouais, alors ça c'est, je pense que c'est le fait que ma mère pendant toute mon enfance, elle a aussi eu des problèmes d'obésité, et elle m'a toujours dit j'ai jamais passé les 100 kg.
D'accord.
Et je pense que quand j'ai vu 99,8, je me suis dit je peux pas passer les 100 kg, quoi. C'est pas possible. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu cet électrochoc et je me suis dit, bah là je suis un peu au fond. Là, j'y suis au fond du trou pour le coup.
Ouais.
Et maintenant, il va falloir rebondir. Et ça a été un peu un mélange entre la prise de conscience et aussi cette capacité à saisir la main tendue qui est arrivée d'un ami au moment du lycée. Ouais.
Ça part de là, la main tendue par Vincent, et ça part d'une histoire de piste d'athlétisme, parce que c'est comme ça que l'histoire débute. Sur un 400 mètres au début, bah oui, on parle d'où on peut. Et l'histoire se met en marche à partir de ce moment-là, en fait.
Ouais, c'est ça. On habitait à 1 km chacun l'un de l'autre. Et au milieu de nos deux maisons, il y avait la piste d'athlétisme.
Ah, parfait.
Et Vincent, il voulait partir courir pour se reprendre un peu à main avant l'été. Et il m'a proposé de l'accompagner à vélo. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu vas courir, je vais courir avec toi.
Voilà, tu t'es motivé, quoi.
Et ouais, en fait, d'y aller avec quelqu'un, c'était plus que courir. Parce que courir, ça me donnait pas envie. Mais aller partager quelque chose avec quelqu'un, ça me donnait envie.
Ouais.
Et forcément, le premier jour, on a fait un tour de piste, on s'est écroulé, quoi. Enfin, moi, j'en pouvais plus, j'étais au bout du bout. Et même après, quand on a commencé à se préparer, alors on n'avait pas un objectif directement, mais voilà, on essayait d'y aller une fois par semaine, on courait 2-3 minutes, on marchait 2-3 minutes,
ouais.
Puis 5 minutes, 8 minutes, ouais, on essayait. Et tu vois, on faisait 5 pompes, 5 abdos à la fin en se prenant, en se disant, ah bah ça y est, on est en train de se remettre en forme et tout.
Parce qu'il y a cette prise de conscience, tu te mets un peu au sport, la course à pied, tu te bouges comme ça une fois à deux fois par semaine. Est-ce qu'il y a un mouvement qui est enclenché? Est-ce que tu commences à être suivi par une diététicienne ou pas du tout? Tout ça, tu l'as fait en autodidacte?
Ouais, j'ai fait beaucoup en autodidacte au début. En fait, j'ai été suivi de mes 9 à mes 12 ans par un tas de personnes, par des psychologues, des diètes, tu vois, les avocats, les machins par rapport à tous ces problèmes-là.
Ouais. Donc,
et au bout d'un moment, j'ai explosé, quoi. J'ai dit, j'arrête tous les suivis. Et en fait, de mes 12 jusqu'à mes 17 ans, j'ai vraiment eu un trou, plus personne ne me suivait, quoi.
Ouais.
Que ce soit au niveau psy ou au niveau diète.
C'était une volonté personnelle, t'en avais marre d'être consulté, quoi.
J'en avais marre et comme je disais, j'avais cette conscience que, enfin tu sais, j'allais voir les diètes, ils me disaient mais il faut que tu manges des légumes, tu fasses du sport, au bout d'un moment c'est bon, je le sais.
Ouais,
en fait c'était juste, à l'heure actuelle je suis pas en capacité de m'en sortir.
Ouais.
Et comme j'ai dit, j'étais conscient que j'étais pas encore au fond du trou. Et le jour où j'ai atteint le fond du trou, bah là j'ai de nouveau essayé de prendre un petit peu un diète, des choses comme ça. Mais mes deux premières années de running, je mangeais pas non plus équilibré, quoi. Je me sentais encore mal.
T'as perdu du poids rapidement ou finalement pas trop parce que l'alimentation ne suivait pas?
Alors, j'ai pas perdu de poids. Ce qui m'a aidé, c'est que je me suis stabilisé.
Ouais.
Et par chance, en fait, j'ai eu une croissance assez tardive. Et du coup, quand je suis arrivé sur mes 18 ans, le fait de stabiliser et de prendre 15-20 cm ouais. en un an, je me suis énormément affiné.
Ouais. Et donc ça s'est ressenti sur ton visage, sur ta morphologie, etc.
Quoi. Ouais, même au niveau des performances à pied, quoi. Je ouais. sais que je suis passé, tu vois, la première année, je fais 1h01 au 10 km. La deuxième année, je crois que je fais 1h02, donc je régresse de 1 minute. Ouais. Ça a été un petit choc. Et l'année d'après, en fait, je fais 44 minutes.
Ah oui, vraie progression.
Et du coup, j'ai vraiment senti un gain assez énorme. Et aussi, par rapport au poids, il y a eu une perte de poids, mais qui n'était pas bonne, hein, il faut quand même en parler. C'est que il y a un jour, je suis rentré, tu vois, j'ai perdu confiance, je me suis dit, je vais pas m'en sortir, et j'ai arrêté de manger en fait pendant un mois, quoi. Parce que je pensais que manger, ça allait faire que j'allais être harcelé, que j'allais et que je détestais l'aliment.
Donc il y avait
quoi.
Juste de l'hydratation et c'est tout. Quoi.
Ouais, c'est tout. Je mangeais une tomate et une boîte de thon chaque midi pendant un mois, et c'était mon régime draconien. Voilà, je le répète, hein, faut pas le faire. Oui, mais en fait, moi à ce moment-là, je me pesais, j'avais presque des troubles d'une personne anorexique. Je me pesais 10 fois par jour, je voyais juste le poids descendre.
T'as eu l'obsession de la balance.
Ouais. Ah oui, je me pesais tout le temps et je me levais même au milieu de la nuit, quoi. Je m'empêchais de boire des fois en pensant que c'était le chiffre qui allait monter et que c'était bien. Et tu vois, j'ai perdu 16 kilos en un mois. Donc t'imagines, en fait, tu vas te peser 10 fois dans la journée, bah 10 fois dans la journée, tu perds du poids, tu le vois et tu te dis, ah bah je suis en train de bien faire. Mmh. Et le pire, c'est qu'il y a tout le monde autour qui me disait, Sylvain, depuis que tu fais de la course à pied, c'est formidable, tu perds du poids, tu vois, les gens, ils s'en rendaient pas compte.
Bah oui, oui.
Donc il y a eu des trucs assez fous comme ça.
Ah, c'est histoire folle. Ouais. Johan, je pense à toi et à ton expérience du haut niveau, parce que l'obsession de la balance peut exister aussi. Est-ce que tu l'as vécu en croisant des athlètes comme ça qui avaient la crainte des grammes superflus et de perdre le poids de forme?
Non, beaucoup, hein. beaucoup. Hein. C'est une problématique qu'on aborde peu dans le sport de haut niveau parce que c'est encore un peu tabou, mais le poids dans le demi-fond, enfin moi je connais vraiment plus le demi-fond que le sprint ou autre, c'est vraiment un sujet tabou où il y en a beaucoup qui sont sans arrêt en train de se peser. Et c'est une vraie problématique, ouais. J'en connais, hein, des gens anorexiques, machin, qui ont vraiment des troubles du comportement alimentaire. Ça existe. Moi, j'ai toujours eu de la chance, c'est que j'ai toujours été assez maigre et c'est ma morphotype et c'est ma morphologie. Même quand je coupe l'entraînement, je prends pas forcément de poids, donc ça n'a jamais été vraiment un problème. Mais je peux te dire que ça existe vraiment. Alors, ça existe beaucoup plus, malheureusement, chez les filles que chez les hommes. Ouais. Elles ont un vrai rapport au poids qui est différent de nous et je pense que les coachs aussi sont certainement responsables de ça parce que dès que les filles prennent un peu de poids, bah derrière c'est une réflexion, c'est des choses comme ça et du coup elles se sentent mal dans leur peau. Et chez les gars ça arrive aussi, hein, ça arrive aussi et c'est vrai que on est tout le temps en train de regarder le poids et moi j'ai réussi à m'enlever de ça. À un moment donné je le faisais, à un moment donné je me pesais quasiment tous les jours pour regarder. Je tenais un tableau, tu vois, j'avais une feuille avec écrit le poids et tous les jours je notais pour voir la variation. C'était dans mes prépas marathon, tu vois, mais à la fin je le faisais aussi. À un moment donné je me suis dit, faut pas le faire pour perdre du poids, il faut le faire pour voir justement quand tu descends trop bas, c'est que t'es plus dans le bon poids, tu vois. Je parle souvent du rapport poids puissance.
Ouais.
Plus tu maigris aussi, à un moment donné c'est plus tu perds du muscle. J'en parlerai tout à l'heure pendant la séance, mais quand quelqu'un de un peu en gros la graisse, le muscle pèse plus que la graisse, donc plus vous courez normalement et presque au début vous prenez du poids.
Entre guillemets, il y a le bon et le mauvais poids, quoi.
Exactement, il y a le bon et le mauvais poids. Et moi, j'ai jamais basculé comme ça dans le mauvais poids, donc c'est une chance. Mais ça existe vraiment, ouais. C'est une vraie problématique, le poids. Hein.
Ouais. Tu l'as encore aujourd'hui, l'obsession de la balance ?
Ouais, justement, j'ai adopté une technique, c'est que là, depuis 8 mois, je me pèse plus, en fait.
Ah.
J'ai décidé de supprimer la balance de ma vie et j'ai réussi à comprendre que, en fait, le corps, c'était une machine qui était formidable et qui n'était pas bête, en fait. Et moi, je sais que quand j'ai des coups de mou dans la vie, je vais reprendre du poids. Quand ça va mieux, y a des phases dans la vie, comme l'été, où j'ai tendance à retrouver mon poids de forme. Et je ne me prends plus la tête avec ça, en fait. Ouais. Si je prends du poids, c'est que mon corps, il en a besoin, quoi. Et voilà, je me fous la paix un peu.
Est-ce que tu as une surveillance accrue de ton alimentation ou est-ce que tu t'autorises encore quelques écarts de temps en temps ?
Non, j'ai vraiment pas de surveillance accrue. Aujourd'hui, je mange ce que je veux.
Ouais.
J'essaye de faire attention quand je prépare des objectifs, mais je suis pas dans la restriction, vraiment pas, quoi. J'ai vraiment pas ce sentiment de me priver, en tout cas.
Comment arrive cette idée d'Ironman alors ?
Ouais, elle arrive.
Pourquoi l'Ironman? Pourquoi pas simplement un marathon ou un semi d'entrée, l'épreuve la plus difficile, les hommes de fer, quoi.
Ouais, bah on disait à 16 ans, j'ai commencé à courir. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai gravi les échelons en course à pied pour atteindre 65 km en trail. Et en fait, quand j'ai terminé cette course, je me suis dit, bah, le harcèlement scolaire, ça va s'arrêter parce que mes harceleurs, ils sont pas capables de faire ça.
Ouais.
Sauf que, en fait, ça s'est pas arrêté. Et je me suis dit, bah, j'ai besoin de quelque chose pour reprendre confiance en moi, quelque chose qui est vraiment dur, quoi. Et j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet. C'est là que j'ai vu des vidéos de l'Ironman. Les gens, ils s'évanouissaient au bord du malaise, ils tombaient, tout ça. Et
ça
c'est assez
envie,
étrange,
quoi.
Ouais, mais c'est assez étrange. Mais bah, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me faut ça, quoi. Ouais. Je me suis dit, il me faut un truc tellement dur que le jour où je le termine, en fait, on peut plus rien me dire.
Ouais.
Et du coup, je me suis convaincu que j'allais le faire le soir même. Je me suis inscrit pour mon premier 73 alors que j'avais même pas de vélo, tu vois.
C'est dingue.
Pour 6 mois après.
Tu t'es dit, je vais le faire en Vélib au pire.
Ouais, non, je sais pas. J'étais, tu vois, fin 2019, en plus, derrière confinement, alors ça a été compliqué de préparer ça.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, et le lendemain, je suis retourné en cours et c'est là que j'ai dit, bah, vous verrez, Fatman deviendra Ironman.
Et voilà, ça part de là, en fait.
Ouais, ça part de là. Ouais. Et c'était aussi une manière de me défendre, cette phrase, parce que. Pendant plusieurs années, j'ai rien dit quand on se moquait de moi. Et là, bah, quand on se moquait, je disais, bah, tu verras, en fait, Fatman deviendra Ironman. Ouais, alors après, on m'a appelé Fatman pendant 2 ans, mais c'est pas grave. Moi, j'étais convaincu que j'allais devenir un homme de fer, quoi.
Ouais. Parce que nous, on est de générations différentes. On est plus âgé que toi avec Johan. Toi, t'as vécu la génération réseaux sociaux. Là, c'était très présent dans ton adolescence. Le harcèlement scolaire, il était surtout physique, entre guillemets. C'était déjà du harcèlement en face ou c'était aussi sur les réseaux sociaux?
C'était quand même beaucoup en physique. Et sur les réseaux sociaux, bah, parfois, tu sais, dans le groupe de la classe, tu retrouvais des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Donc, c'était quand même assez difficile.
Il pouvait y avoir
difficile.
Des moqueries comme ça.
Ouais, il y avait des trucs qui passaient le soir quand l'école se terminait. Donc, ça s'arrêtait jamais. Mais tu vois, moi, je me souviens que des fois, on essayait de me porter pour me jeter dans les poubelles des ateliers. Tu vois, ils arrivaient à 3-4. Des trucs comme ça, où on te fait des croche-pattes, où on vient, on t'attrape tes bourrelets, tu vois, on dit, ah, machin.
Ouais,
enfin, en fait, constamment, on te lâche pas. T'as pas besoin d'être battu au point de machin.
Non, mais bien sûr,
Et c'est plein de petits gestes au quotidien là, qui te rappellent qu'en fait, t'es dans l'échec.
Oui, c'est
quoi.
Une blague sur une blague sur une blague. Et puis, c'est
en fin de journée, ça en fait 50.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. La question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que tu es encore en contact avec certains de tes harceleurs de l'époque et est-ce qu'ils ont changé d'avis? Est-ce qu'ils se sont excusés? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience avec tout ce que tu as fait, tout le chemin que tu as parcouru?
Ouais, alors non, j'ai zéro contact, je les ai tous bloqués.
Okay.
Y en avait un que j'avais oublié de bloquer et le jour où j'ai terminé l'Ironman, il m'a dit c'est formidable ce que tu fais, j'ai toujours cru en toi. Je lui ai dit bah non, t'as pas cru en moi et je l'ai bloqué du coup.
Donc t'as un ressentiment quand même. Tu t'es pas prêt comme ça à te dire, à recroiser certaines personnes et elles t'ont fait tellement de mal que bon, t'as pas besoin, t'es pas à cette étape là quoi.
Ouais, en fait, j'attends même pas de pardon.
Ouais,
quoi. Enfin, c'est ce que je disais avant, moi j'avais besoin d'un truc pour me reconstruire et le jour où j'ai terminé un Ironman, la vie des autres, ça m'importe plus trop, quoi.
Ouais.
Donc il peut venir me dire pardon, c'est pas grave, moi je sais qui je suis. J'attends pas d'excuses, j'attends pas qu'on vienne me parler. Et je sais que c'est des gens qui vont pas m'aider dans ma vie.
Non, bien sûr.
Donc j'ai pas besoin d'eux, non.
Et de toute façon, ils doivent prendre conscience par eux-mêmes que, en fait, ils auraient jamais dû faire ça et que, au contraire, ça t'a motivé. Donc et que et l'histoire est plus belle comme ça. Raconte-nous cette année de préparation de l'Ironman alors, parce que tu t'inscris, c'est bien beau de prendre le dossard et de recevoir la validation.
Mais après,
il y a tout le plan
d'entraînement
à mettre en place. Comment ça s'est passé?
Exactement.
Alors
Exactement.
Ouais, c'est ça. Je m'inscris en décembre 2019, donc il faut vite que j'achète un vélo.
C'était où le premier Ironman?
Je devais faire Nice, le 73.
Okay. Ah oui, pas le plus facile en plus.
Ouais, pas le plus facile.
Avec le vélo, ouais.
Donc j'achète le vélo, je commence à m'entraîner et comme j'ai dit, là tombe confinement, machin. Donc au final, 6 mois de préparation, un peu pour rien. Parce que même quand on ressort du confinement, je m'entraîne comme un fou et ils annulent l'épreuve. Parce que deuxième, troisième vague Covid.
Ouais.
Et du coup, je me retrouve à reporter mon premier 73 en 2021 que je vais faire à Aix.
Ouais.
Donc bah là, franchement, j'avais une grosse détermination. Je m'entraînais énormément, quoi. 15-20 heures par semaine, en plus des cours.
T'as été coaché, encadré ou t'allais chercher les plans d'entraînement sur internet?
Alors j'ai été coaché, j'ai eu la chance, j'ai mis un petit message sur un forum Facebook.
Ouais.
Donc dans ma région, un groupe de triathlètes, tu vois, et je suis tombé sur Loïc Sébélieu qui est le frère de Laurent Vidal,
okay.
Triathlète qui a fait les JO. Et il m'a dit, bah, moi je peux t'aider, voilà.
Super.
Donc il m'a, pendant plus d'un an et demi, il m'a aidé pour mon premier 73. Après j'ai changé plusieurs fois d'entraîneur, notamment parce que je bougeais de ville et je voulais essayer de trouver un groupe pour avoir un peu plus de dynamique dans l'entraînement. Et voilà, donc au final, je termine mon premier 73 en 5h33. Donc ça fait genre 34 minutes de natation. Je crois que j'ai fait 3 heures de vélo et un semi en 1h40.
Ah, ce qui est
ou
fort.
1h45.
Hein. Et quand même. Ouais.
Et voilà, après j'en ai. Du coup, quand j'ai terminé le premier half, je me suis dit, bah là, la prochaine étape, c'est l'Ironman. Mmh. J'ai remis des halves sur le chemin l'année suivante. Et je me suis inscrit donc à l'Ironman de Aix 2022, du coup.
Qu'est-ce qui est le plus dur physiquement quand tu commences le sport? Parce que forcément, il y a une phase de progressivité. Tu ne peux pas comme ça envoyer des grosses distances d'entrée. Est-ce que c'est articulaire? Est-ce que c'est le souffle? De quoi tu as souffert quand tu as commencé le sport alors?
J'ai beaucoup souffert à vélo au niveau musculaire. Je sentais que j'étais très très limité.
Ouais.
Après en course à pied, comme j'ai dit, j'avais déjà fait un 65 km, donc j'avais une expérience quand même à pied.
Ouais.
Et en natation, bah, je nageais plutôt bien. Mais ce qui était dur, c'est plus dans la tête, quoi, arriver à encaisser la charge.
Ouais. Et puis c'est le temps passé à vélo, ça nous dit souvent, mais.
Ouais, et c'était vraiment compliqué. Moi, ma première sortie vélo, elle fait 23 km.
Voilà, c'est ça le truc.
Donc c'est assez compliqué. Après nager, je nageais plutôt bien. Et ouais, dans la tête, ça a été assez compliqué à certains moments, quoi. J'ai vu un peu j'ai touché un peu le fond plusieurs fois pendant la prépa.
Ah, quand même. Et il n'y a pas eu de rechute par rapport à ça, justement, de chute de motivation, de dire mais pourquoi je fais ça, j'en ai marre, j'arrête.
Ouais, il y a eu une grosse chute. Donc l'Ironman, il était en mai 2022. Je me suis entraîné avec une détermination assez folle jusqu'à décembre 2021. Et à partir de janvier, donc à 4-5 mois de l'échéance, là, je suis retombé dans une mauvaise dynamique parce que cette fois-ci j'étais en master, j'avais des amis, des choses à partager avec des gens et j'ai voulu sortir en fait. Je voulais juste être un ado comme les autres.
Ouais.
Je voulais goûter à ces trucs-là. Et en fait, je me retrouvais au milieu de la boîte de nuit à me dire mais qu'est-ce que tu fous là quoi, Sylvain, t'es qu'une merde, t'as un Ironman dans 5 semaines, tu vas pas y arriver, tu vois que t'es en train de reprendre du poids, t'arrives plus à suivre les entraînements. Et en fait, le jeudi d'après, il arrive très vite, tu ressors, et je suis rentré en fait dans une spirale négative.
Ah oui.
Et les mois, ils ont défilé quoi, 4 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, et je me suis retrouvé à un mois de l'échéance avec 7-8 kilos de plus. J'avais plus confiance en moi, ça faisait 4 mois que je passais pas les séances. Et là, quand je suis arrivé à un mois de l'Ironman, en fait, je voulais juste me cacher quoi. J'avais peur, je me suis dit ça fait 3 ans que tu dis Fatman deviendra Ironman et est-ce que tu vas vraiment devenir un Ironman quoi. Je savais plus.
Mais tout l'aspect mental est intéressant là, Johan, parce que c'est pareil, c'est la peur de l'échéance qui arrive, c'est aussi l'envie de faire autre chose, mais la culpabilité que tu ressens, enfin c'est tout ça quoi.
Ouais, mais parce que d'un seul coup, il a voulu vivre une vie normale puisqu'il était redevenu avec un petit peu de confiance, tu vois, il avait repris confiance en lui grâce au sport et grâce à tous ses objectifs. Du coup, t'as envie d'avoir une vie sociale tout à fait normale avec tes potes, donc tu sors, t'as 20 piges. Mais par contre, effectivement, sur son objectif de se dire « vas-y, je vais terminer un Ironman », c'est ce côté-là, c'est le côté sport qui, du coup, en a pâti. Et effectivement, je dis souvent que la préparation, c'est la clé du succès parce que c'est elle qui va vraiment vous donner la confiance nécessaire pour le jour J. Et là, pour le coup, quand tu arrives sur la ligne de départ et que tu sais que tu n'as pas fait le taf, que tu as 5 ou 6 kilos de trop, que tu t'es pas bien entraîné, que tu as fait plus de soirées que de sorties longues, là, effectivement, tu pars pas avec tous les atouts dans ta manche. Ouais. Donc, c'est pas évident à gérer. Ouais.
Est-ce que tu as ce handicap lié à ton enfance et à ton alimentation quand tu étais petit, du métabolisme qui, dès que tu manges un peu gras,
tu
prends du poids?
Ouais, forcément, je le vois quand j'allais manger dehors avec des amis, t'as eux, ils prennent pas de poids et toi t'en prends plus.
Tu le ressens tout de suite, toi.
Ouais, je le ressens, mais de toute façon, moi c'est un truc que j'aurai pour toute ma vie. Hein.
Voilà.
C'est, quand je me sens pas bien, je mange et quand je suis pas bien, mon corps il stresse, il stocke. Mmh. Donc je sais, j'apprends juste à faire avec en fait, à diminuer ça, à essayer de limiter mes crises un peu d'anxiété, tu vois. Des trucs basiques, mais genre je devais aller nager, j'arrive devant la piscine, en fait elle est fermée alors qu'elle est censée être ouverte, je pouvais avoir une crise, rentrer dans le magasin, acheter 60 euros de bouffe et c'était que quand je rentrais à la maison que je me disais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois.
Ah,
et après t'as toute la malbouffe avec toi, t'es bien obligé de la manger.
Ouais.
Donc j'ai appris à gérer des crises comme ça assez longtemps.
Tu te sens à l'abri aujourd'hui de la rechute ou tu te dis l'équilibre est encore fragile et ça peut arriver?
Ouais, c'est fragile et des fois je me dis même, enfin j'ai presque la conviction qu'un jour je vais retomber quoi. Je pense que la vie, elle est tellement dure, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il y a des épreuves dans la vie qui sont très dures. Et moi, je mange et je retombe dedans. Hein. Par exemple, en début d'année, j'ai coupé les liens familiaux avec ma mère parce que ça se passait pas bien. J'ai repris 10 kilos en 3 mois, quoi. Et c'est pas grave. Je vais petit à petit revenir dedans. Dans un an, ça ira mieux. Là, j'ai déjà perdu quelques kilos. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et moi... j'affronte les difficultés comme ça et puis le sport après m'aide à revenir dans une tendance normale, on va dire.
Mais c'est aussi la beauté de ton engagement, on en parle dans un instant, parce que c'est ce que tu apportes aux jeunes, mais ce que eux t'apportent aussi, parce que leurs phrases sont sur tes maillots, sur les vêtements que tu portes, ça te remotive. Quand tu en vois au bord de la route, là forcément, tu as un gain de motivation, donc ce sont des grands moments. allons-y sur la suite, parce que là, il y a ce premier Ironman qui passe, mais il y en a un deuxième qui arrive vite. Et là, justement, tu atteins un objectif, tu gagnes 2 heures par rapport au premier. Et là, sportivement, tu peux être très fier de toi, quoi.
Ouais, là, j'étais très fier. Après avoir terminé le premier Ironman, j'ai continué dans la logique. En fait, je ne savais pas trop quoi faire, quoi. Je me suis dit, j'arrête le sport, je continue, je ne savais pas trop.
Et c'est vrai que c'est dur quand on prépare une grande échéance qu'elle est atteinte comme ça, c'est toujours dur de repartir et de se motiver à faire autre chose.
Ouais, et puis ça fait 3 ans que tu te dis Fatman deviendra Ironman et tu te réveilles le lendemain, tu sais plus quoi faire, quoi. Ouais, donc en fait, tu passes 10 jours sur un nuage et puis le 11e jour, t'es juste au fond du trou. Quoi.
À nous, après le record du monde, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Voilà. Et on est encore au fond du trou. Là.
C'est pas faux. On fait de la peinture du coup.
Ouais, donc j'ai cherché à rebondir en me disant, bah, maintenant je vais essayer d'aller performer. Donc je me suis donné 1 an pour essayer d'améliorer mes chronos. Sur Ironman, en natation, j'ai conservé les mêmes temps. En vélo, j'ai gagné une demi-heure. Et surtout, au marathon, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait 3h55 au lieu de 5h30 sur mon premier Ironman. Donc j'en étais très fier. Et puis tout au long de cette année aussi, j'ai fait un peu... je me suis aussi reconstruit en mettant en lumière mon histoire. On a voulu faire un documentaire...
Qui est très bien d'ailleurs.
Bah, qui s'appelle « De Fatman à Ironman », qui
simplement.
Retrace toute mon histoire.
Tapez ça dans YouTube et puis vous allez tomber dessus.
C'est ça, et qui retrace toute mon histoire, qui retrace aujourd'hui l'engagement que j'ai auprès des jeunes, parce que ça a été aussi... je me suis dit, je veux pas... Moi, en fait, je suis pas un athlète pro, donc si je me motive que pour la perf, ça marchera pas. Il fallait que ça ait un sens. Et le sens, pour moi, c'était d'aller partager cette histoire et de se dire, ça va servir d'exemple à d'autres jeunes. Donc c'est comme ça qu'est arrivé le deuxième Ironman en 11h44 au final. Donc j'étais très fier et c'était aussi l'aboutissement d'une belle année d'engagement où j'ai rencontré 2000 jeunes, la
Alors
création de mon association.
Allons-y là-dessus, donc création d'association, la rencontre avec des élèves. Tu t'es dit je vais rencontrer 1000 élèves mais tu l'as fait plus vite que prévu. Donc tu t'es dit je vais encore augmenter ce total et je vais me déplacer un peu partout en France. T'en avais besoin toi pour te reconstruire. Est-ce que t'as reçu en échange c'est... Magnifique, exceptionnel.
Ouais, c'est énorme. Hein. J'ai la chance du coup de me lever chaque matin et de me dire je sais pourquoi je me lève, quoi.
Voilà.
Parce que quand je reçois des messages des jeunes sur les réseaux qui me disent Sylvain, je me suis remis au sport, tu vois, j'ai perdu 2 kilos, ou alors qui me disent j'ai vécu, tu vois, qui te témoignent d'inceste, de violence, de leurs parents, qu'ils ont perdu leurs parents parce qu'ils sont en prison, des choses comme ça, et qui te disent en fait tu me donnes l'impression que moi aussi je peux m'en sortir, quoi.
Ouais.
C'est quelque chose d'assez exceptionnel et j'ai des retours en ce sens. Tous les jours, quoi. Donc, c'est énorme pour moi. Comme tu disais, les mots des enfants, j'ai fait écrire des mots, des phrases que j'ai gravées sur mes maillots parce que, en fait, je veux qu'ils soient avec moi et je veux que tout ça, ça ait un sens aujourd'hui, ce combat-là, par le sport.
Et les dessins aussi pour les petits, j'imagine, ce genre de choses, ça, ce sont des éléments qui marquent, comme ça, des images que tu gardes.
Ouais, ma toute première intervention, je me rappelle, j'ai reçu 10 dessins, quoi. De gens qui m'avaient dessiné.
Un classeur du coup chez toi ?
Ouais, vraiment, j'ai vraiment une grosse pochette où je dois avoir des centaines de dessins de jeunes et. Ça fait chaud au cœur, quoi.
Après, c'est chronophage, ça prend du temps de défendre une cause comme celle-là, surtout quand on continue l'entraînement d'un Ironman, parce que c'est ce que tu vises comme distance. C'est-à-dire que tu arrives à vivre de ton activité, de ton association aujourd'hui ?
Alors, pas du tout. Donc là, ça fait 1 an que j'ai démissionné de mon travail pour me consacrer à 100% à ce combat-là.
Tu peux nous la donner, d'ailleurs, le nom de l'association, comment
c'est Agir pour devenir. J'ai trouvé que c'était un beau nom pour vraiment mon histoire.
Bravo.
Et du coup, depuis 1 an, j'ai démissionné pour me consacrer à 100% à ce combat-là. Donc j'ai fêté mes 1 an il y a une semaine. De démission.
Ah bon anniversaire.
Merci. Et voilà, non, pour l'instant, j'en vis pas. Maintenant, l'objectif, c'est que je puisse me salarier de l'association, puisqu'une fois que je serai salarié, ça veut dire que je vais pouvoir mener le combat vraiment dans la durée.
Oui.
C'est un peu la peur qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, on espère que ce sera pas qu'un an de sensibilisation ou 2 ans. Donc voilà, on a beaucoup d'énergie, on a des partenaires, on est aidé, on a des contacts avec le ministère pour mener ce combat-là et on espère. Le mener le plus loin possible. Quoi.
Après, tu as de bons contacts, mais c'est normal parce que ce sont des thèmes d'actualité. C'est un souci de santé publique, la sédentarisation des jeunes aujourd'hui. Johan, c'est un message qui est important de véhiculer parce que c'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, des écrans, etc., les enfants sortent de moins en moins et font de moins en moins d'activités sportives.
Ouais, ils sont moins performants aussi. Il y a une étude qui avait montré qu'on était vraiment moins performants que dans les années 70-80. Donc effectivement, c'est des choses à mettre en place au quotidien pour faire prendre conscience aux jeunes que leur corps, c'est leur vie, quoi, c'est leur santé, c'est mieux t'es dans ton corps, plus tu fais de sport, mieux t'es. Et mieux t'es, c'est... Voilà.
Ma question va te sembler un peu bizarre peut-être, mais est-ce que avec tout l'engagement que tu mets, l'assaut, la rencontre avec les jeunes et tout, ça te met une pression supplémentaire quand tu prépares tes objectifs et quand t'es au matin de la course par exemple ?
Ça me met pas de pression. Là où ça me met une pression, c'est quand des fois dans certaines villes, j'arrive pas à avoir d'intervention parce que ça m'arrive des fois de pas avoir de réseau dans certaines villes et ça se finalise pas.
Ouais.
Et quand je me retrouve au départ de la course, je me sens pas légitime, quoi. En fait, Moi aujourd'hui, mon combat, c'est de le partager, entre guillemets, m'aligner sur une course. J'ai confiance en moi, quoi. J'ai plus besoin d'aller faire une course pour me le prouver. Ouais. Et du coup, imaginons quand je vais dans une ville, ça m'est arrivé en début d'année, où j'ai du mal à avoir des contacts et à faire des interventions, ou que j'en fais qu'une ou deux. Bah, je me dis, mince, je perds un peu de sens ou quoi.
Ouais, d'accord.
Et c'est un
T'as
peu ça.
T'as une pression quotidienne de l'engagement, quoi, c'est ça.
Ouais, moi j'ai envie d'être engagé au maximum et des fois c'est un peu compliqué, hein, forcément.
Ouais, c'est sûr. Bon. Prochain objectif, c'est quoi ?
Prochain objectif, du coup, là je vais faire un 5 km début juillet en natation.
Ah, ça va. En natation.
Il s'est fait piéger.
J'ai parlé trop vite, quoi.
Non, j'embarque Yann avec moi.
Ouais, voilà, tu peux y aller. Là, tu vas le battre facilement, là, c'est sûr.
Et voilà, après GR20, donc on essaiera de sensibiliser la semaine de la rentrée en Corse. Et derrière, j'enchaîne, on va dire, avec les 100 km de Millau. Donc on va sensibiliser dans le sud de la France.
Bon.
C'est l'objectif. Et je me repose beaucoup sur les organisateurs de courses pour faire venir les jeunes sur les courses kids, en fait.
Ouais.
Moi, je vais intervenir avant dans les écoles et je leur dis, bah, vous voyez, nous, on fait la grande course, vous pouvez venir nous encourager, vous pouvez participer
et vous
à
courir,
ça. Ouais. Et ça me décharge avec l'association de la création d'événements.
Ouais.
Et puis, ça incite les jeunes à venir faire du sport, quoi.
Tu sais, c'est la beauté de RMC Running aussi. On arrive à nouer des liens avec une grande communauté de coureurs qui viennent de milieux complètement différents. On a des profs, des militaires, on a un peu de tout. Tu vois, nous, on l'a vu sur le record du monde, notamment. Si on veut te joindre, si on veut profiter de ton engagement pour te faire intervenir quelque part, où est-ce qu'on peut te contacter ?
Alors, on peut me contacter sur Instagram, Sylvain Dugues, alors D-H-U-G-U-E-S, mon nom, ou sur LinkedIn. Voilà, c'est là principalement que je relaye toutes les actualités de l'association. Et souvent, ça se passe comme ça. Les gens me disent « Ah ben moi, j'ai envie que tu viennes à la classe de mes enfants » ou alors « Mon frère, ma sœur, il enseigne là, est-ce que tu vas aller voir ?» ou « Mon petit-neveu à l'autre bout de la France ?» Et comme cette année, j'interviens partout en France, bah, y a forcément un moment où je peux passer les voir. Quoi.
Et bah voilà, donc n'hésitez pas, si jamais c'est une cause qui vous touche, contactez-le et comme ça, il le fera avec plaisir. Justement, on a un second intervenant qu'on est ravi de recevoir parce qu'il est recordman du monde avec nous. C'est Rémi Moore qui est à mes côtés. Il est monté pour l'occasion, il habite à La Rochelle, il est monté à Paris. Salut Rémi.
Salut, salut, merci de me recevoir. Mais ça claque, ouais, recordman du monde.
C'est beau ça quand même. Hein.
C'est vraiment imprévu, c'est insolite.
Dès le lundi matin, et ouais les gars, je suis record.
Ah ouais, non, j'ai bombé le torse.
C'est plus le même, ouais.
J'ai mis ma plus belle chemise à nos papes et voilà, c'est parti.
Alors, tu sais quoi, je vais être totalement transparent. Rémi, tu es auditeur fidèle du podcast RMC Running. On ne se connaissait pas, mais tu as été retenu pour faire partie des 144 coureurs de ce défi extrême. Donc, à Charletti, je rappelle, record du monde. On visait 350 km en 24 heures. On a atteint 416. On a été 144 à être mobilisés. Tu as répondu, tu as justifié ta performance sur Strava, donc comme tous les autres coureurs, il n'y a pas eu de facilité pour toi, etc. En revanche, tu m'as écrit dès le lendemain ou le surlendemain, et là, tu m'as raconté ton histoire, et c'est pour ça qu'on te fait intervenir aujourd'hui.
Ouais, mais j'avais envie de partager ça au moins avec toi, avec Geoffroy et Johan, pour le bonheur que vous m'avez apporté, pour cette victoire qui est pour moi ma Coupe du Monde. Enfin voilà, je veux dire, il y a quelques années, j'aurais demandé à mes parents ou à ma famille dans quelle discipline j'excelle, ils t'auraient parlé de casser des pastèques avec la tête. Et pas du tout courir un 400 mètres autour d'une piste. Voilà, donc j'ai un profil un peu comme Sylvain. Bon, j'ai eu une enfance très heureuse, une famille très aimante, mais avec un bon coup de fourchette.
Ouais.
Donc, et puis aussi des émotions très fortes. Voilà, j'ai une hypersensibilité qui fait que je mange mes émotions à la moindre contrariété, au moindre imprévu,
dès
au moindre stress.
Dès qu'il y a un peu d'anxiété, tu te réfugies dans la nourriture.
Ouais, voilà, ou dès qu'il y a de l'ennui, mais ça peut aller aussi à contrarie. Dès qu'il y a une très bonne nouvelle, dès que je suis heureux, c'est l'envie de me féliciter et ça passe par un bout de saucisson, par un bout de fromage.
Ouais.
Et tout ça, ça fait que plus du stress et des faits de vie qui font que le corps engendre du poids et puis on se retrouve rapidement à 120 kilos.
Ouais, 40 ans, pilier de rugby, 120 kilos.
Ouais, voilà, un profil un peu ingrat, pas très joli, enfin à la Vincent Moscato, je sais pas si tu vois.
Ouais, monsieur. Ouais.
Et puis, tu te dis 40 ans, c'est compliqué, l'apnée du sommeil qui vient aussi, qui fait que la nuit t'es appareillé.
Oui. Ça va loin, quoi.
Bah ouais, quand tu rencontres une gonzesse, je parle à Maître Yodu, là.
Docteur Love, voilà.
Quand tu dois mettre ton masque la première nuit, c'est pas simple.
C'est sûr.
Tu doutes de toi, et puis, voilà. Donc, mon petit frère est passé par la chirurgie bariatrique.
Ouais. Rappelle-nous ce que c'est, rapidement.
C'est donc un bypass, c'est-à-dire que ton estomac est échienté, exactement.
Ouais.
Et donc, ils te réduisent l'estomac pour que tu maigrisses rapidement.
Que tu puisses perdre du poids assez
rapidement.
Exactement,
parce que pour moi, c'était une des seules issues, entre guillemets, puisque j'avais essayé beaucoup de régimes.
Ouais.
Mais bon, voilà, dès que je perdais du poids, ben, j'étais content, donc ben, j'allais manger. Donc c'est voilà, et puis le stress fait que, et puis tu dors mal, et puis enfin voilà, donc c'est un cercle qui est jamais bon.
Et la course à pied t'a aidé comme ça?
Exactement, après moi l'opération, c'est vrai que rapidement on te dit ben il faut se remettre au sport. Moi j'ai toujours été très sportif et j'ai toujours adoré ça, et puis je me suis dit que la course à pied c'était aussi le moyen de se mettre des objectifs rapides à court terme et réalisables. Je pense qu'il faut partir de là, se dire ben, je vais courir 5 km, je vais courir 10, puis tu cours 10, puis tu te dis ben oui, je fais 1h02, et ben allez, je vais faire mieux. Et puis tu te prends au jeu, et puis j'ai fait voilà, des 10 km, j'ai fait des semis, puis j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur un marathon, où ben, j'ai complètement explosé. Voilà, je suis parti sur la ligne de départ, je me voyais très beau, je me voyais très fort. Mais j'avais oublié le troisième pilier qui est vraiment la sagesse. et je suis parti sur une idée de faire 3,45. J'ai suivi le meneur d'allure bien comme il faut. Ouais. Puis passé au semi, je me suis dit, mais je me sens trop bien. Quoi. Je ne vais pas rester à le suivre bêtement. Je vais accélérer. Donc j'ai accéléré.
Ah oui. Vraiment, on est l'erreur.
Voilà. Puis au 30e, voilà, on parle d'un mur. Je crois que moi, j'ai pris un building. la tour Montparnasse pleine tête. Ouais. Et j'ai fini avec des crampes, avec douleurs d'estomac. Parce que quand on passe par la chirurgie, on a des problèmes d'assimilation. Et donc il faut, voilà, j'étais parti sans gel.
D'accord.
J'avais fait toutes les erreurs.
Dans ta tête, tu as la crainte aussi du rejet, peut-être de mal absorber ce genre de choses.
Bah, de toute façon, c'est très compliqué, puisque j'ai du mal à absorber les nutriments, les sucres maintenant via cette opération. Donc il faut savoir s'hydrater correctement, c'est sûr, et puis manger correctement pendant une course longue distance. Ouais. Et ça aussi, c'est une appréhension qui n'est pas facile. Donc je l'avais fait vraiment tout seul dans mon coin, et puis l'autopsie de cette course que je finis en 4h40, en rampant, en souffrant, c'est de se dire il faut se faire accompagner. Ouais. Et je pense que voilà, sur le plateau on a un super coach, super appui. Moi je suis passé par un ami proche donc que j'embrasse, Pascal Mas, qui m'a suivi et qui m'a mis tout ça, voilà, qui m'a mis des programmes. Qui m'a demandé de faire des sorties, parce que moi j'avais fait ce marathon quasiment sans faire de sorties hebdomadaires. Hein. Donc je me suis mis à faire 3 sorties par jour, à faire une.
Par semaine.
Par semaine, tout à fait. Et je suis tombé sur l'endurance fondamentale.
Ah, quel bonheur!
Quel bonheur! et la nuit, c'était vraiment la sensation de la nuit. Quand on commence à courir, on a envie d'aller vite, on a envie de trouver de la vitesse, et puis on te dit, on court doucement.
Ouais, c'est dur à comprendre au début.
Ouais,
c'est
tu vrai. Vas voir, ça sera bénéfique.
Pour perdre du poids.
Exactement. Et donc mon coach, il me dit, mets-toi un podcast, fais quelque chose, mais au moins respecte mes allures. Et puis tu verras, ça va gagner. Donc je suis tombé sur RMC Running, et je suis tombé sur un épisode avec Cyril...
Julien.
Qui avait suivi effectivement des athlètes qui avaient mon parcours.
Sacrée histoire, hein, Cyril Julien, ancien basketteur professionnel, un médaillé olympique aux Jeux de Sydney en 2000, et qui a basculé dans le triathlon extrême aussi, et qui accompagne des personnes en situation de surpoids comme ça.
Exactement. Ce podcast, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme on dit. Et je me suis complètement noyé dans ses paroles. Et ça m'a déjà accroché avec RMC Running, et ça m'a permis d'amplifier cet amour qui naissait pour le running. Et aujourd'hui, je suis accro, quoi.
Bon. T'écoutes toutes les bêtises de Johan toutes les semaines, quoi.
Je les partage, voilà. je me régale, ouais.
Bon. Écoute, magnifique témoignage, en tout cas.
Merci.
On va profiter de vos deux expériences pour passer tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
Parce que ce thème est intéressant et va parler à nombre de ceux qui nous écoutent, Johan. Il y a une étude qui est sortie. 40% des coureurs en France courent avec pour principale motivation la perte de poids, justement.
C'est beaucoup, hein.
C'est une motivation intime, et c'est pour ça qu'on se force à sortir, à aller faire du footing. Quels sont les bons conseils qu'on peut donner? On s'appuiera sur tout l'aspect nutritionnel avec les expériences de Sylvain et de Rémi. Nous, on va donner les conseils sportifs purs et durs, les conseils de coaching. Rassurez déjà ceux qui nous écoutent. Courir, ça permet de maigrir quand même. Du long terme, ça marche pas en 2 semaines, mais c'est vraiment une vraie aide quand on veut perdre du poids.
La perte de poids, c'est le bilan. En fait, c'est le bilan de ta balance énergétique. En gros, c'est tes dépenses moins l'apport d'énergie derrière que tu vas faire. Tu vois, si tu cours 1 heure, mais que derrière tu manges également mal, avec de la mauvaise nourriture, de mauvaise alimentation, que tu reprends encore plus de calories que ce que tu as dépensé, bah effectivement, tu vas pas maigrir. Donc déjà, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect nourriture, diététique, nutritionnelle, où tu dois faire également attention. Et tout à l'heure, je disais un truc, c'est que je disais qu'au début, le changement morphologique, il se voit pas forcément tout de suite sur la balance, parce que quand on va commencer à courir, on va transformer sa graisse en muscle. Et du coup, ben, on ne va pas perdre de poids. On va avoir le sentiment de s'affiner, que ton corps a changé, que tu t'es tonifié. Mais par contre, quand tu vas monter sur la balance, ben, ça ne va pas forcément se voir parce que justement, la densité du muscle, elle est plus grande que celle de la graisse. Et que du coup, bah, le muscle est plus fin. Ouais. Et donc, du coup, ça ne va pas forcément se voir tout de suite. Mais par contre, ton corps, il change. Tu prends en masse musculaire. Et c'est ça qui est intéressant. Tu perds en masse graisseuse plutôt que de regarder bêtement le poids et se dire, en fait, la course à pied, ça ne fonctionne pas parce que je ne perds pas de poids.
Vous êtes passé par ces étapes, les gars? Vous avez vu comme ça le poids qui ne descendait pas beaucoup alors que votre corps était en train de se modifier? Toi, Sylvain, ça t'arrive?
Ouais, moi je l'ai vu, c'est frustrant parce qu'on se dit, attends, je fais du sport, je perds pas de poids. Tu comprends pas au début, quoi. Mais tu remarques, comme disait Yoann, que dans la glace, bah, tu t'affines quand même un peu au visage.
Tu sens un changement quand même.
Ouais, tu te sens mieux hein, quand même au quotidien, quoi.
C'est sûr. Et toi aussi, Rémi?
Oui, enfin, via l'opération, moi j'ai perdu 40 kilos en quelques mois, donc moi c'est parti très vite. Et après j'ai un suivi auprès de ma clinique et donc là je suis vraiment testé entre guillemets et je vois mon taux de masse grasse qui descendait.
Et oui.
Donc il est passé de avant l'opération à 37%, là aujourd'hui je suis à 15% de
masse. Ah ouais, quand même. Ouais.
Donc voilà, moi je le vois plutôt par rapport à ça puisque mon poids lui s'est stabilisé et il bouge très peu aujourd'hui.
Bon, la clé comme pour tous les coureurs, c'est la progressivité dans l'entraînement, la régularité, Johan.
Ouais.
Et on le disait, malheureusement, ça va pas faire plaisir à ceux que ça ennuie, mais il faut courir lentement aussi, déjà quand on démarre pour éviter le traumatisme, et ensuite parce que c'est l'effort lent comme ça qui peut permettre de brûler encore plus de graisse, hein, justement.
Ouais. Quand on a cette optique de perdre du poids, je pense qu'il faut être ultra patient, tu vois. C'est vraiment la nécessité de temps qui va être importante parce que il faut démarrer progressivement parce que c'est souvent des coureurs lourds. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais traumatismes à chaque impact au sol. Ça veut dire qu'il faut vraiment une bonne paire de chaussures. C'est vraiment la base, avoir une paire de chaussures avec un confort, un amorti et surtout une stabilité pour pouvoir encaisser les chocs, parce que voilà, quand un coureur pose le pied au sol quand il fait 120 kilos, c'est pas la même que quand il en fait 60, tu vois. L'impact sur ses articulations, il est quand même un peu différent. Donc du coup, il faut vraiment privilégier des bonnes chaussures, prendre le temps, voilà, la nécessité de la patience avec des objectifs réalistes qui vous permettent de vous motiver, tu vois. Il faut pas se dire, bah voilà, dans un mois, je veux faire 10 kilos de moins. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est progressif. Je vais démarrer au début par 10 minutes de footing, puis 20, puis 30, puis 40, monter progressivement comme ça, de semaine en semaine, avec augmenter progressivement le volume. Et effectivement, comme on le dit souvent, c'est l'endurance fondamentale qui va vraiment vous aider à perdre du poids. Il vaut mieux courir longtemps plutôt que vite. Parce qu'on estime que pour brûler les graisses, c'est au bout de 30 à 40 minutes d'effort. Donc, effectivement, là, c'est plus intéressant de courir longtemps. Ouais.
Tu te reconnais
privilégier l'endurance que la vitesse. Ouais.
Ouais. Sylvain, ouais.
Ouais, je me reconnais là-dedans. Je dirais même alterner, voilà, marche et course à pied au début.
Alterner marche-course au début. Ouais. Ouais,
parce que même courir 10 minutes au début, c'est hyper dur. Quoi, et il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui nous disent je cours pas, je marche au milieu. Ou alors, au bout de 2 minutes, je suis essoufflé. Bah, c'est pas grave. Tu vois, tu fais une minute, 10 fois une minute.
Il
n'y
a rien de honteux ou d'avilissant à marcher un peu dans sa sortie. Bah,
bah, même les athlètes pro, quand tu reviens, je sais pas, d'une blessure, j'en sais rien, au talon,
un truc
comme ça, t'es obligé de passer par là.
Ouais, c'est vrai.
Et voilà aussi, il faut vraiment être progressif parce que quand on est en surpoids, les périostes, c'est ça qui prend direct.
Voilà. Vous avez été sujet à quel type de blessure, vous, quand vous
Bonne
avez
question,
pris la course à pied?
Et moi, bon, je touche du bois, fin de la peau de singe, rien.
Pas trop.
Rien. Non, rien.
Bah, parce que... Ça veut dire que tu as été intelligent dans ta programmation d'entraînement aussi.
Je suis pas sûr que le terme intelligent soit ça.
Pas justifié. Raisonnable.
Ouais, en tout cas, voilà, je me suis fait accompagner. Par contre, j'ai été très discipliné. Ou en tout cas, aujourd'hui, je suis encore très discipliné. Ouais. Et je me dis que mon coach, il fait ça en connaissance de cause.
Tu fais confiance aveugle,
vraiment, il a mes suivis quotidiens, ouais. Il sait ce que je fais, et puis s'il me dit ben, vas-y doucement, ou je l'écoute, voilà. Et après je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit Johan sur la dopamine, on en parle mais aujourd'hui mais c'est hyper important, enfin, pour nous qui avons des compulsions alimentaires sérieuses, enfin, je veux dire, c'est aussi une bonne résultante d'aller faire du sport, ouais. Parce que ben, ça nous met de côté un peu ces pulsions, et derrière on sent vraiment mieux.
C'est le côté satisfaction après la sortie, hein, c'est ça?
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et bon, on est moins tenté d'aller au frigo, quoi.
Ouais. Ouais, je dirais même moi que j'avais envie de bonifier la séance quand je terminais. Ce côté, j'ai réussi, je suis allé courir, je me sens bien, je me disais, j'ai envie de manger équilibré pour bonifier ma séance, quoi.
Ouais. Ouais.
Et il y avait vraiment ce côté.
Rien, ouais.
Ouais, voilà. Et donc c'est là, tu rentres dans un cercle vertueux, quoi, et c'est formidable derrière.
Ouais. On met un peu de fractionné quand même, il faut toujours mettre un peu de rythme, Johan. Après, on va rentrer dans le concret d'une séance d'entraînement pour ceux qui se lancent et qui veulent absolument perdre du poids. Il faut quand même aller titiller l'organisme et pas se contenter de footing long de 45 ou une heure. Quoi.
Voilà, les 45 premières minutes de course, c'est souvent les sucres qui vont être utilisés, ouais. Et derrière, c'est les lipides. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux courir longtemps. Que plutôt rapide. Mais par contre, d'un point de vue entraînement pur, d'un point de vue spécifique et tout, ouais, c'est vrai que c'est aussi intéressant pour perdre du poids, à un moment donné, de courir vite, ouais, de mettre un peu de fractionné, de changer un peu, de faire également du renforcement, des choses comme ça, pour aussi tonifier son corps, tonifier son organisme, et d'un point de vue cardiovasculaire, de faire aussi travailler le cœur. Parce que c'est aussi l'idée de se sentir bien dans son corps, c'est aussi d'avoir ces objectifs-là, de booster un peu ton système immunitaire, de cardiaquement de remodeler un peu tout ça et améliorer un peu ton profil de coureur. Et effectivement, faire du fractionné, c'est intéressant. Faire du renforcement, c'est intéressant. Tout ça, c'est comme les footings à jeun, tu vois, on doit en faire aussi pour perdre du poids, parce que là c'est pareil, bah tu tapes directement dans les graisses parce que t'as pas mangé depuis plus de 12 heures de votre repas de la veille. Mais par contre, il faut pas faire que ça, tu vois, tu fais pas que des footings à jeun, tu fais aussi du fractionné,
oui.
Je pense que il faut une alimentation saine, équilibrée et tout ça. Mais par contre, il faut que ça soit dans... Il faut presque tout faire, tu vois. Il faut pas faire que du footing en endurance fondamentale.
T'as raison,
ça,
de le préciser. Sûr. Il faut pas se dire, on fait tout à jeun pour que ça.
Tout à
la
jeun en endurance fondamentale.
Vite,
c'est ça, ouais.
Vous l'avez pratiqué comme ça, la course à jeun, les gars?
Ouais, j'ai testé. Hein. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai fait toutes les erreurs. J'ai perdu 16 kilos en un mois. J'allais courir le matin pour essayer de m'affaiblir le plus possible, quoi.
Ouais, sauf mais que tu t'affaiblis plus que.
Mais tu crées tellement de fatigue qu'en fait, c'est nocif.
Bah oui, on dit.
Pour la motivation.
Et ça permet de rebondir. Même sur le fait, tout à l'heure on parlait d'alimentation, quand t'as un repas, un des meilleurs conseils que moi je pourrais te donner, c'est de pas aller dans les extrêmes et de se dire, attends, je vais pas prendre ça pour pas prendre de poids, en fait juste mange une assiette normale parce que t'as besoin de cette énergie.
Si
tu manges pas assez, la séance tu vas pas la bonifier, tu vas arriver sur la dernière série, tu vas pas la passer, tu vas être fatigué, tu vas rentrer, tu vas manger n'importe quoi. En fait, le meilleur des conseils, c'est juste manger normalement, quoi.
Et peut-être pas manger entre les repas aussi, ça c'est peut-être un bon conseil qu'on peut donner au niveau de...
Exactement, après s'il y a une petite faim avant la séance, prendre un petit truc pour justement pas arriver dénutri complètement à la fin. Mais voilà, avoir une alimentation normale.
Non, mais c'est sûr. Tu l'as fait, toi, Rémi, la course à jeun?
Ouais, je l'ai fait, mais bon, j'ai pas retrouvé d'effet positif plus que ça. Donc, et puis, je suis pas trop du matin. Donc,
D'accord. Ok. Non, mais c'est sûr. Oui, je voulais vous questionner là-dessus parce que vous avez dû le ressentir. Ok, il y a la perte de poids, il y a le changement morphologique, mais au niveau du souffle, ça doit être incroyable de sentir
de
comme ça,
de
mieux en mieux. C'est ça.
Déjà, quand tu vois que tu augmentes un peu tes distances au début et que tu arrives à faire un peu moins essoufflé, qu'au bout de 2 minutes, tu n'es pas au bout de ta vie à tomber par terre, c'est une satisfaction qui est énorme. Et en fait, reprendre confiance, ça part de là, quoi.
Ouais, c'est sûr. Terminer une séance alors que tu n'es pas essoufflé, ça, c'est un sentiment.
C'est hyper agréable. Après, moi, je suis beaucoup ma montre, je suis connecté à ma montre. Et les BPM pour moi, maintenant j'ai même du mal à aller en zone 5. Quoi, donc,
Ah bah tant mieux.
Ouais, tant mieux. C'est un peu frustrant de temps en temps parce que quand tu te files sur une grosse séance de cross-training ou de crossfit, t'aimerais bien aller en zone 5 parce que le coach il te dit tu t'échappes. Mais non, je m'échappe pas. Mais,
on veut pas, Rémi, mais ça c'est l'âge à un moment.
Hein. Ah, tu vois,
ça monte plus à un moment.
C'est possible.
C'est pour ça. Johan, pour terminer la séance, est-ce que tu peux nous donner une semaine type un peu de concret, 3 ou 4 entraînements que tu conseillerais à une personne qui veut perdre du poids grâce à la course à pied?
Je pense que 3 entraînements en course à pied par semaine, c'est une bonne logique pour perdre du poids sur du quand même du moyen et du long terme. C'est pas mal. Et après, comme je disais, ouais, être progressif et tout ça. Mais par contre, c'est deux footings en endurance fondamentale, un de 50 minutes et un de un peu plus long de 1h10. Enfin, ça, c'est pour quelqu'un qui est déjà un coureur assez régulier, hein, quelqu'un qui démarre vraiment de tout en bas. Lui, bah, comme on disait, il faut alterner marche, course et tout ça. Et après, une séance de fractionné où là, pour le coup, on va utiliser un peu le cardio, où on va faire monter un peu monter le régime moteur. Ça va être intéressant. Mais je pense que 3 séances, c'est bien. 3, 4 séances maximum pour pouvoir récupérer entre les séances aussi. Parce que voilà, on parle d'athlètes un petit peu en situation de surpoids. Donc, il ne faut pas non plus les surcharger en traumatisme. Voilà, il faut que les articulations, elles apprennent aussi à réagir face à ces impacts-là. Et donc, faut pas non plus courir tous les jours. Tu vois, si jamais j'ai jamais couru, je passe pas de zéro à cette séance hebdomadaire. Ouais. Mais voilà, trois séances avec deux footings en endurance fondamentale, un plutôt court, un plutôt long, et une séance de fractionné, c'est très bien. Et après, un peu de sport porté, de rameur ou de vélo ou de natation, c'est très bien. Ouais. Et alors, attention au fait de se dire je cours, je transpire, je perds du poids. Ça, c'est totalement faux. Parce que bah, quand on perd de l'eau, on ne perd pas de poids, en fait. Parce que derrière, il suffit.
Et puis l'eau, on la reprend très vite. Hein.
Donc, exactement. De toute façon, la sueur, c'est 99% d'eau et de sels minéraux. Donc, voilà. Y a très peu de graisse qui est partie avec la transpiration. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une idée reçue. Ouais.
Il est brillant, ce coach. C'est incroyable. Ça, c'est la plus-value d'RMC Running.
Mais c'est parce que j'espère que Geoffrey Charpin nous écoute. Lui, dans son tiroir caisse, a environ 20 Kinder Bueno et 12 Muffins.
C'est horrible.
Sur l'alimentation saine et équilibrée, il a des cours à prendre. Ouais.
Tu sais ce qu'il fait maintenant ? Il arrive, il me balance des paquets de bonbons comme ça, sans même
me
regarder.
Ah, c'est les bonbons.
Non, mais il veut que j'ai du diabète, celui-là. Il est terrible. Allez, passons tout de suite au bon plan d'Ossard.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Un format très sympa proposé aujourd'hui. La Yota, on en parle régulièrement, c'est une course de swimrun. Il y a plein de formats disponibles, vous pouvez vraiment vous amuser. C'est le week-end du 19 juillet à Vichy. Tu connais d'ailleurs, Sylvain,
ce
format, c'est quelque chose qui te donne envie. Ouais, parce que toi, tu fais de l'Ironman, donc forcément, ça peut t'attirer.
C'est facile.
Ça, hein.
Ouais, ça fait quelques années que ce format il existe et c'est vrai que c'est assez insolite. Quoi. Quand t'es arrivé, tout le monde voulait regarder. On s'est dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et ça marche plutôt bien. Quoi.
Je rappelle le principe, hein, c'est on effectue des tours et puis à chaque tour, pour passer le cut, on supprime 10 minutes, donc il faut aller de plus en plus vite et c'est vraiment hyper sympa. Il y a des courses relais, il y a des courses pour les enfants, tu vois, ça te parle aussi, entre 6 et 17 ans, il y a des courses réservées aux femmes. Franchement, c'est un magnifique événement. N'hésitez pas si ça vous intéresse, vous allez sur le site d'ailleurs, Yota, donc yotaxp.com, vous allez avoir le détail de tout ça et nous, on vous fait gagner 3 dossards, donc n'hésitez pas, vous choisissez le format qui vous intéresse. Si vous voulez postuler, vous allez sur nos réseaux sociaux, Instagram et Strava. Le test d'écoute, qu'est-ce qu'on va faire comme test d'écoute? Pas mal. Geoffrey Charpy me dit, on demande le temps de Sylvain sur son premier 10 km. Voilà, il l'a dit plusieurs fois.
Alors, j'ai fait 1h01 et 40 secondes.
Ah bah voilà, il nous donne la réponse.
Alors, on va faire un autre test d'écoute parce que le problème...
Ah, j'ai cru que c'était une question.
Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais ce qu'on va faire. Alors, tu ne réponds pas cette fois,
vas-y,
Sylvain.
Allez.
C'est le temps de Sylvain sur le marathon de son dernier Ironman. Voilà, là aussi, il l'a donné. Là, je l'ai. Vous aussi, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous postuler sur le club RMC Running, sur Strava notamment. Il me reste à vous remercier. Vraiment, on a passé un super moment avec vous. Avec toi Rémi, franchement belle rencontre et heureusement le record du monde était là pour ça, donc c'était un plaisir de partager ce week-end avec toi. J'espère que tu t'es régalé en écoutant le débrief. Hein.
Ça m'a fait sourire.
Ouais, j'imagine. Merci à toi Sylvain, quelle belle histoire. On reste en contact de toute façon et si tu reviens notamment au moment du marathon de Paris, on se recroisera, on refera des événements ensemble. Merci au coach Yodu, hein. T'as été excellent comme d'habitude. Bravo Johan. Et pour terminer, le choix musical de Sylvain, justement, t'as choisi Oshi, c'est ça. Voilà, le nom de la chanson,
il suffit d'y croire,
tout simplement. Ça résume bien ton histoire.
Exactement.
Et voilà, c'est très sympa ça aussi. Merci à tous les trois, très bon moment passé avec vous. Bon début de vacances pour ceux qui sont concernés. RMC Running va vous accompagner tout au long de l'été, rassurez-vous, on ne vous lâche pas. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. J'étais brisé et déçu.